Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Parler le français en France, cela va de soi, mais au-delà de nos frontières. Écrire en français quand on est Proust ou Frédéric Dard, ça coule de source. Mais pour Cioran ou Moréas ? À travers un documentaire de Catherine Pont-Imbert, l'émission Tire ta langue s'interroge sur ce qu'est la place du français dans des pays où il n'est pas en position dominante, le Québec et la Belgique en l'occurrence. Puis, dans un entretien avec Robert Joigny, Antoine Perrault cherche à comprendre pourquoi ou comment un écrivain choisit d'écrire en français plutôt que dans sa langue maternelle.
Notre séance d'aujourd'hui est envouée à la célébration de la langue dont nous partageons le souci avec tous les usagers du français dans le monde.
Alors avant Babel, le langage véritable de Dieu et d'Adam est le chinois.
Oh, je suis au bout de la langue, ça m'énerve. C'est...
Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, réalisée par Françoise Camard.
À Montreuil, on dit ouais, il y a une courave. Ouais, c'est une courave, ouais.
Mon métier de linguiste n'est ni de me faire le chantre d'une langue commune, en l'occurrence l'anglo-américain, ni de faire entendre des accents de Cassandre, d'être une Cassandre à cocarde.
Mais que fait donc ce mec, un micro dans la main ? Mais que fait-il donc ? On ne peut plus l'arrêter. Mais ce n'est pas de sa faute, il s'est tiré.
Parler français ne va pas toujours de soi, relève d'un référendum quotidien, tient parfois de la résistance, de l'apostolat, ou donne simplement au locuteur l'impression diffuse qu'il n'est pas synchrone. En France, bien sûr, tout est fait pour que de telles sensations n'aient aucune prise, aucun droit de cité. Le français est maître chez soi, point final. En revanche, et ce sera dans un instant le thème du documentaire de Catherine Pont-Imbert, en Belgique ou au Québec, plane, par la force des choses, une certaine insécurité linguistique. Et elle n'est pas, nous l'entendrons, sans conséquence sur le sentiment de la langue et donc sur les identités collectives. Ensuite, pour le dernier quart d'heure de l'émission, je recevrai Robert Joigny, professeur émérite en Sorbonne, pour son étude remarquable parue aux presses universitaires de France, « Singularité francophone », à propos d'écrivains de Moréas à Makin ayant fait le choix de notre idiome. Mais commençons par le commencement, la chronique d'un maître de sa langue, Philippe Barthelet.
Les regrets. Du temps pour nous quasi néandertaliens du président Pompidou, la télévision d'État faisait rivaliser divers journalistes, comédiens, professionnel de la plume ou du microphone, pour le beau titre de francophonissime. C'est ainsi que, semaine après semaine, sous la pointilleuse férule d'un professeur polyglotte, polymathe et pour tout dire élevé au dictionnaire, la France, la Belgique, la Suisse, Monaco et le Québec, le Luxembourg et le Val d'Ost concouraient à parler le meilleur français possible. Au contraire de l'allemand, dont l'usage est un titre à la souveraineté politique, le français se rit des frontières. Langue transnationale s'il en est, universelle, comme on disait à Berlin au temps de Rivarol, est la vocation à réunir. Ceux qui vantent sa clarté ne croient pas si bien dire, l'étymologie du mot renvoyant à calare, appelé, soit le grec kaleo qui a donné ecclesia, notre église, qui est l'assemblée par convocation. Étymologie prophétique, on le voit, qui prévoyait jusqu'aux cloches. Clarté et clameur, comme du reste réclamation, sont de même origine. Quand le général de Gaulle, dans la reconstruction diplomatique de la victoire, renonçait à annexer la Wallonie et même le Val d'Ost, au grand dépit de quelques rattachistes ici et là, il se conduisait selon l'esprit de cette francophonie dont on ne parlait pas encore. Ce n'était d'ailleurs pour lui qu'un autre nom de la France, laquelle ne se ramenait aucunement, selon la certaine idée qu'il s'en faisait, à ses mesures nationales. C'est ainsi qu'il pouvait parler des Français du Canada, sans que la presse anglo-saxonne eût vraiment besoin de s'alarmer de ses visées coloniales en Amérique du Nord. Sans doute, la francophonie de maintenant n'est-elle plus ce qu'elle était, Il y a longtemps qu'en Europe, elle s'est restreinte à l'immédiat cercle de famille, celui qui réunissait la télévision pompidolienne. Les princes qui nous gouvernent, de la politique, de la culture ou de l'économie, ont visiblement la tête ailleurs. Non que le français ait perdu en clarté, sinon étymologique, le pouvoir de rameuter les populations, lequel comporte le tocsin, puis le glas, enfin les regrets, qui sont, comme le rappelle Littré, des coups de cloche intermittents pendant les funérailles.
À cette époque, j'étais un monsieur Jourdain de l'aliénation linguistique. Je la parlais sans le savoir, personne n'en mourrait, mais tous étaient atteints à des degrés divers. Ce constat d'aliénation à ma langue, chez moi, eut l'effet d'un choc. Je m'expliquais ma langue approximative parlée et écrite. J'utilisais la dérision. « Quelle langue parlez-vous, monsieur ?» Je parle approximatif, je parle à côté, je parle autre chose. Ce choc remit en question, de fond en comble, le rapport à ma langue tout court, puis le rapport du langage à la réalité et le rapport à mon travail poétique. Désinvestir ma langue de la langue de l'autre, donner aux mots le sens de l'attribut, je devins un obsédé, je le suis toujours, du mot juste et jusqu'au bout de la précision absolue du mot, de la propriété des termes à tout prix, non pas dans une langue figée pure, mais dans une langue d'aujourd'hui qui crée sa propre dynamique, qui se détermine à partir d'elle-même, dans son évolution et les échanges qu'elle se choisit. J'écris avec toute l'étendue de la langue, de l'archaïsme au néologisme et à l'emprunt, dans le souci constant, maniaque pour ma part, de la justesse du mot d'où qu'il vienne.
L'obsession du mot « juste » ressentie par le poète québécois Gaston Miron, dont témoigne ce texte, est sans doute l'un des symptômes des tourments de la langue française. Si le tourment n'est pas un concept linguistiquement estampillé, une catégorie identifiée par les spécialistes, il renvoie cependant à ce sentiment de malaise vécu par certains groupes qui ont développé vis-à-vis de leur langue une attitude d'insécurité, d'intranquillité. Son emploi est fondé sur l'observation de situations linguistiques qui, comme au Québec ou en Belgique, font apparaître des états problématiques. Une langue tourmentée serait une langue qui manque d'assises, de sécurité, dont l'état et l'usage restent sans cesse à protéger, à conquérir ou à reconquérir. Comme au Québec, où le sujet de la langue a toujours été un catalyseur de points de vue et de prise de position. Cette extrême sensibilité tient au fait que la langue y a longtemps été menacée, phénomène que nous ignorons en France et dont nous prenons mal la mesure.
Il y a quelques années, avant l'adoption de la loi 101, qui a institué le français langue officielle du Québec en 1977, avant l'adoption de cette loi qui oblige les immigrants à envoyer leurs enfants à l'école française, il y avait une forte proportion d'enfants d'immigrants qui allaient à l'école anglophone.
Lise Gauvin.
Parce que le Québec a quand même un double système d'éducation, subventionné par l'État, aussi en français et en anglais. Il y a des écoles anglophones pour les anglophones, comme il y a des écoles françaises pour les francophones. Donc, c'est ce qui indique qu'il s'agit là d'une langue qui pourrait être menacée. Il y a aussi, évidemment, des signes plus, on peut dire, plus discrets d'anglicisation dans la langue ou dans les expressions, etc. Mais ça, c'est moins quantitatif. Je pense que dans les années 60, on a parlé d'une langue qui était en train de s'angliciser, de s'abâtardir, de devenir une langue mixte. C'était dans les années 60, avant qu'il y ait une intervention interventions, enfin des interventions plus, disons, plus énergiques de la part des institutions. Mais je ne crois pas que ce soit le cas en ce moment. Je crois que la langue au Québec n'est pas menacée de contamination, sinon pour certains faits culturels, enfin certains objets culturels, etc. Je pense que la langue française se porte bien au Québec en ce moment, une fois acquis le fait que la société québécoise fonctionne en français. C'est-à-dire que la langue de communication, la langue de travail, la langue officielle, la langue de l'État reste le français. Mais il reste quand même qu'il faut, toujours surveiller, être vigilant en fait.
Il fut tout de même une époque qui n'est pas si lointaine que cela, où le fait de pratiquer le français au quotidien, dans la rue, chez l'épicier ou dans les commerces, relevait presque d'un acte militant. J'ai entendu à de très nombreuses reprises des témoignages de gens qui disaient que, notamment en milieu urbain, il fallait affirmer cette volonté de s'exprimer en français.
Tout à fait. Alors là, c'est le problème de Montréal. Tout le commerce se faisait en anglais à Montréal, en fait, dans l'ouest de Montréal, le centre commercial le plus important, tous les affaires, la langue des affaires, la langue du commerce était l'anglais. C'était dans les années 60. C'était avant, justement, ces mesures énergiques qui ont permis de renverser la situation. Et là, en effet, il s'agissait d'un acte presque d'héroïsme parce que systématiquement, lorsqu'on s'adressait, par exemple, dans un grand magasin à une vendeuse en français, on se faisait répondre en anglais. Maintenant, c'est l'inverse. Je crois que c'était un phénomène de l'industrialisation d'après-guerre et qui a duré jusqu'aux années 70-75.
Oh, Jane, non veille. Oh, Jane, ne veille. Oh, non, je veille, ne veille. Non, veille. Oh, veille,
Ce qui distingue peut-être la Belgique, c'est que la politique jacobine qui était celle de la France et qui a commencé avec l'abbé Grégoire et qui consistait à éradiquer les patois, d'ailleurs avec l'intention de favoriser la langue française qui était le véhicule des idées novatrices, des idées des Lumières. Cette politique donc jacobine n'a jamais eu lieu de manière aussi explicite en Wallonie, ce qui peut vous expliquer dans une certaine mesure que les patois se sont conservés plus longtemps comme langue véhiculaire. Mais j'insiste, quand il s'agissait, ces patois sont tellement divers, quand il s'agissait de converser dans son propre village. Dès qu'on sortait de son village et donc que le patois du voisin n'était plus tout à fait le même, on passait au français. Au français ou à ce que l'on imaginait être le français, enfin une langue véhiculaire qui se rapprochait le plus possible du français. Et cette situation que je vous décris remonte très haut, elle remonte au XIIIe siècle.
Il y a, Marc Wilmet, tout de même une singularité de la situation de la langue française en Belgique, c'est que, comme son nom l'indique, c'est dans sa langue que la communauté française de Belgique trouve son identité.
Oui, c'est effectivement le seul ciment. Et là encore, il y a des racines historiques à la chose. Au fond, rien n'aurait empêché de baptiser tous ceux qui parlaient français en Belgique wallons. C'est d'ailleurs ainsi qu'on les trouve nommés anciennement. Par exemple, chez Shakespeare, qui parle des Walloons. Et le wallon était celui qui parlait français, ou en tout cas une langue romane, dans un pays qui n'était pas la France, mais plus exactement qui consistait dans les Pays-Bas. Avec cette conséquence que les Liégeois, qui appartenaient, eux, au Saint-Empire romain germanique, n'étaient pas considérés comme Wallons. Alors, on est passé de cette acception purement linguistique de Wallons, je rappelle donc qu'ils parlent français sans être nationalité française, on est passé plus récemment à une acception géographique, avec la conséquence qu'elle a exclu les Bruxellois. D'où la difficulté aujourd'hui de nommer cette communauté Wallonie-Bruxelles et la double étiquette qui semble s'installer, après le choix, heureux à bon sens, de communauté française de Belgique, la précision, et surtout à l'intention des Français qui pourraient ne pas comprendre cette arrivée et considérer que la communauté française de Belgique est constituée de Français émigrés en Belgique, communauté française Wallonie-Bruxelles.
Et lorsque vous dites, Marc Wilmet, on pratique cette langue qui se rapproche du français, vous faites allusion bien évidemment au fait que le français pratiqué en Wallonie et celui pratiqué en France ne sont pas tout à fait identiques. Comment au fond a-t-on vécu dans le passé et comment vit-on aujourd'hui cette distance ?
De manière très, très diverse, je vous dirais. D'abord, il ne faudrait pas exagérer ces différences. J'avais noté à votre attention un paragraphe, je vais me permettre de le lire, si vous l'acceptez, d'une excellente histoire de la langue française qui a été écrite par Jacqueline Picoche et Christiane Markelo-Nitzia. Les frontières qui séparent la France des États frontaliers francophones sont politiques, non linguistiques. Ni la Wallonie ni la Suisse romande ne sont bilingues, le français n'y est pas minoritaire. Leurs habitants parlent un français régional comme un autre, et bien souvent le français de Paris. Les administrations, les pharmaciens n'ont pas exactement le même vocabulaire, ni la même terminologie, simples indices très superficiels de la nationalité de locuteurs aussi francophones que ceux de n'importe quelle province française. Donc je vous dis ceci pour que l'on n'exagère pas ces différences, parce que, vu de France, on s'imagine parfois que le français de Belgique, et le français le plus repérable, c'est-à-dire, au fond, le français des Flamands qui parlent français. Vous voyez les caricatures des humoristes français qui imitent l'accent belge. Il s'agit souvent de l'accent des Bruxellois ou des Flamands parlant français. Alors, comment, me demandiez-vous, sont vécues ces différences ? Ces petites différences, là, peut varier très fort. Je vous dirais que le Wallon, de petites cultures, enfin, disons le non-intellectuel, les vit très bien parce qu'il n'en est pas conscient. Au fond, il est sa propre norme. Ça pourrait ne pas être tout à fait le cas de l'intellectuel scolarisé à qui l'on a enseigné ces différences et parfois de manière un peu traumatisante. Il y a eu chez nous, voici quelques années, et c'est passé de mode, hein, je vous le dis tout de suite. Des chasses au belgicisme, par exemple. Alors, c'est à la base de ce que l'on a appelé une certaine insécurité linguistique de ces francophones, notamment lorsqu'ils sortent de leurs frontières et qu'ils voyagent en France et qu'ils n'aiment pas trop, au fond, être repérés comme non-français ou comme étrangers. Et c'est peut-être ce qui a suscité aussi cette activité normative dont on fait souvent des gorges chaudes, des grammairiens belges, c'est-à-dire les Grevis, les Hans, les Dopagne, qui sont là pour enseigner à leur peuple à ne pas trop s'écarter du modèle parisien, car en fait ce n'est même pas le modèle français, c'est le modèle parisien, mais qui, ipso facto, crée ce sentiment de malaise, puisqu'on enseigne à ces francophones naturels que nous sommes, à se garder à gauche, à se garder à droite, à se méfier des innovations, à se méfier des conservatifs.
Le Québec a ce site particulier, Lise Gauvin, que dans le contexte nord-américain, on peut dire qu'au fond, son identité repose en bonne part sur sa langue. Et sur cette question identitaire, il se trouve que les intellectuels et les écrivains, notamment, ont apporté une contribution absolument considérable.
Oui, en fait, on peut dire que la littérature québécoise, dès les débuts, dès ses commencements, s'est attenue à ce à s'identifier par rapport à la langue, par rapport à la langue française et par rapport à une problématique de la langue. Une problématique de la langue qui apparaît dès 1867. Vous savez que la littérature québécoise est très jeune. Le premier roman date de 1837. Et donc, en 1867, il y a un poète exilé en France qui est Octave Crémazie, qui écrit des lettres à son ami resté au Québec et qui se demande qu'est-ce qu'il faudrait pour créer une littérature québécoise, une littérature qu'il appelait canadienne à ce moment-là, une littérature distincte de la française. Et il se demande est-ce que ce serait bien d'avoir une langue à soi, comme par exemple ce serait le Huron ou l'Iroquois. Alors il pose cette question de la langue en rapport avec la création de la littérature. Et dès le début, on s'est posé, les littéraires se sont posé la question à savoir quelle langue doit-on adopter, quelle serait la langue d'écriture idéale, est-ce qu'on doit accentuer les particularismes, est-ce qu'on doit au contraire se rendre davantage accessible à un public français, donc en étant plus universaliste, enfin plus normatif, etc. Alors les écrivains se sont posés cette question de la langue en rapport avec la littérature et ce qui a engendré chez eux ce que j'appelle une surconscience linguistique, une conscience de la langue comme d'un espace problématique, comme la langue comme lieu de réflexion, comme catalyseur de réflexion, comme aussi un lieu d'inconfort, de doute, mais un lieu qui permet toutes les inventions aussi. Donc il y a toujours par rapport à la langue au Québec une double postulation. Je crois que cette situation d'inconfort dans laquelle on se trouve, puisque la langue malgré tout n'est jamais acquise, elle n'est pas acquise en Amérique du Nord, mais elle n'est pas acquise non plus, c'est-à-dire qu'elle bouge, elle change, jusqu'à quel point ces changements sont-ils légitimes ou non, en fait, ceci est très, très productif pour un écrivain. Ça peut être en même temps quelque chose de douloureux, mais une source d'invention. Je pense que tout ceci, la situation de la langue au Québec a été bien résumée en une phrase par Gaston Miron, qui dit « Parfois je m'invente tel un naufragé dans toute l'étendue de ma langue. »
Je dirais que nous occupons une position intermédiaire entre le Québec et la France. Il faut vous dire que nous vivons dans un pays où le français n'a pas une position de monopole. Et la capitale de ce pays devient progressivement une ville au caractère international très accentué. Si bien que, sans souffrir de cette espèce de malaise obsidional des Québécois, qui sont tout de même un îlot francophone battu de toutes les marées anglo-saxonnes, nous avons tout de même conscience, et je crois plus que les Français de France, des menaces, je mets tous les guillemets que vous voulez, qui pèseraient sur le français. Donc peut-être une attitude, je ne dirais pas véritablement militante, mais une attitude de vigilance malgré tout. Tenez, peut-être, c'est tout à fait par hasard qu'en consultant le guide du routard belgique, j'étais tombé sur ce petit passage. L'intelligentsia francophone, écrit l'auteur, l'intelligentsia francophone de Belgique, a toujours nourri vis-à-vis de la France un complexe ambivalent, où se mêle à la fois le désir d'assimilation à la culture française et le besoin d'afficher une identité spécifique. Alors, vous voyez, cette ambivalence se retrouve dans la littérature. Vous avez, grosso modo, deux tendances dans la littérature, issues de nos régions. Une première tendance est celle de revendiquer hautement son appartenance à la littérature française. Et c'est ce qui a fait le contenu essentiel d'un manifeste qui n'est pas très récent, il date de 1937, le manifeste du lundi, qui a été signé notamment par Charles Plisnier, qui avait obtenu peu de temps auparavant le prix Goncourt, et qui écrivait notamment ceci, que je crois intéressant. Non seulement la communauté de langue crée entre notre littérature française et celle des Français un rapport de ressemblance, mais les hasards de l'histoire, le voisinage, les relations spirituelles, le caractère éminemment universel et attractif de la culture française ont réduit au minimum, entre les littératures des deux pays, les nuances de la sensibilité. Vous voyez, ça c'est la première tendance. Et à cela répond aujourd'hui une tendance à parler de littérature belge. Alors comment fonder cette littérature belge, même si on y ajoute deux langues françaises? Mais comment la fonder? Eh bien, certains théoriciens, mais quel est leur retentissement en dehors du Landerneau, ont prétendu alors accentuer les caractères différenciés du français de Belgique. Et je vous avoue, de manière qui n'est pas tout à fait convaincante. Tantôt, donc, on parle d'une insécurité linguistique, et tantôt, il y a une revendication un peu forte de ce qu'il faut bien appeler une belgitude, mais qui n'est finalement qu'une revendication d'intellectuel. Le souci de l'écrivain français de Belgique étant évidemment comme celui de n'importe quel écrivain régional à peu de choses près, d'être publié à Paris. Et lorsque cette publication se fait à Paris et que l'écrivain rencontre le succès, il disparaît en tant qu'écrivain belge. Il y a aussi toujours la volonté dans notre petit pays d'être moralisateur, de faire la leçon et au fond d'exister. Et d'exister surtout par rapport à la France.
Cette surconscience linguistique, Lise Gauvin, qu'ont développé les écrivains québécois, n'est-elle pas liée au fait, finalement, qu'il s'agisse d'une jeune littérature? Et peut-on observer le même genre de phénomène dans d'autres pays qui sont également des pays de jeune littérature?
Tout à fait. Les littératures francophones, notamment, sont un peu dans la même situation, même si chaque fois le statut de la langue est différent. En fait, je pense que ce qu'on appelle littérature francophone recouvre des entités extrêmement diverses et notamment par rapport au statut de la langue. La langue est parfois maternelle, parfois elle est imposée, etc. Mais quand même, il y a toujours une problématique de la langue qui surgit, puisque je crois que la particularité de l'écrivain francophone, c'est d'être à la croisée des langues, c'est d'être en rapport avec d'autres langues. Il n'est jamais dans la langue française uniquement. C'est soit le français et l'anglais au Québec, soit le français et le créole dans les Antilles, ou le français et les langues nationales, les autres langues en Afrique, etc. Je peux le résumer en une formule de l'écrivain africain Henri Lopez qui dit « L'écrivain français écrit français, nous écrivons en français ». Donc, il y a toujours une distance, il y a toujours la langue comme objet de réflexion, comme objet de choix. Alors, je crois que c'est ce qu'il y a de commun entre ces littératures, ces écrivains des littératures francophones, ce travail sur la langue, cette conscience de la langue comme d'un espace à conquérir ou à reconquérir, ou en tout cas à négocier. Il y a une négociation perpétuelle avec la langue française, la langue d'écriture.
Hey, wow. Hello.
Il s'agit ici d'un texte de Marco Micone qui s'intitule Adolorata, qui a été publié en 1984. Et il s'agit du monologue de la jeune fille qui s'appelle Adolorata Zanni. Quand je pense que j'ai failli tout manquer à cause de mon nom. Avec un nom comme Zanni, t'es toujours en dernier de tout. Quand je suis allée au cégep pour m'inscrire au cours d'espagnol, il n'y avait plus de place. J'ai pas pu me retenir. J'ai fait une crise de larmes devant tous les professeurs. Je les ai eus et ont fini par me donner mon cours d'espagnol. Je pense que ça a été le plus beau jour de ma vie, même le plus beau que ma première communion. En tout cas, quand je suis allée au premier cours, c'était comme si j'allais dans un party. Toutes mes amies étaient là. Toutes des Italiennes, excepté pour une Anglaise. Heureusement qu'elle est partie après 3 semaines. J'ai jamais entendu quelqu'un prononcer si mal. Ces gens-là sont vraiment pas doués pour les langues. C'est peut-être pour ça qu'ils ont obligé tellement de monde à apprendre la leur. Moi, je m'ennuie jamais. Je m'ennuie jamais avec mes 4 langues. Je peux parler l'anglais le lundi, le français le mardi, l'italien le mercredi, l'espagnol le jeudi et les 4 à la fois le vendredi. La fin de semaine, je parle pas parce que mon père est là. Quand je pense qu'il y en a qui se marient avec une seule langue et qu'elles sont heureuses, je me vois déjà mariée avec 4 langues. Qu'est-ce que ça doit être? Mais celle que je préfère, c'est l'espagnol. Je sais pas ce que je donnerais pour être une vraie espagnole. À la baie, quand j'ai des clients espagnols, je me présente comme Lolita Gomez. C'est tellement plus beau qu'Adolora Tanzani.
Alors vous voyez ici, l'abbé,
il est magnifique,
c'est
ce texte.
Oui, ouais. C'est un. Je vous en ai lu des extraits. Là, c'est une grande surface, un grand magasin de Montréal. Et vous voyez ici cette espèce de, enfin, ce personnage emblématique qui est transfuge de la langue et qui finalement est né dans aucune langue. Et c'est un peu l'itinéraire de Marco Micone qui a bien montré que ce passage d'une langue à une autre n'est pas simple, c'est complexe. Il y a toujours un danger quelque part d'une perte totale ou d'un no man's land. Ce que j'appelle le no man's land, parce que finalement, c'est ça. Il a mis en scène ce personnage qui n'est nulle part, qui renie aussi bien sa culture d'origine que celle dans laquelle elle est, et qui s'est trouvé une troisième identité, un lieu neutre qui est l'espagnol. Alors c'est un peu sous le mode comique, donc cette question de langue qui est bien mise en situation.
Vous rappelez dans votre livre L'engagement, Lise Gauvin, que Gilles Deleuze et Félix Guattari avaient très bien défini, c'était au sujet de Kafka, la notion de littérature mineure, c'est-à-dire ces littératures qu'une minorité font dans une langue majeure. Est-ce que vous pensez que ce modèle peut s'appliquer au Québec?
Oui, je vais juste ajouter que l'engagement, je l'écris L-A-N-G-A-M-E-N-T, donc langage. Je crois que l'écrivain est d'abord engagé dans son langage avant d'être engagé dans quelque combat que ce soit, dans quelque cause que ce soit. Alors la fameuse notion de littérature mineure, qui n'est pas une notion du tout péjorative, elle a été reprise à plusieurs fois pour définir les littératures francophones, parce que les littératures francophones, on ne savait pas trop comment les désigner. C'était des littératures périphériques ou des littératures régionales. On les mettait dans un chapitre différent de l'histoire littéraire. Et je crois que le premier à l'utiliser pour les littératures francophones, c'est Césaire lui-même, dans une conférence de 76 ou 77, peu après la publication du Kafka de Deleuze et Guattari. Mais, elle est séduisante, cette notion. Elle est intéressante, mais qu'est-ce que ça veut dire? Malgré tout, je crois que elle s'applique pas tout à fait aux situations des littératures, de certaines littératures francophones. Par exemple, elle a été contestée récemment pour la littérature antillaise par Raphaël Confiant. Elle dit, il faut qu'à un moment donné, on se considère comme une majorité, on est une majorité chez soi. Alors une minorité faite dans une langue majeure, la notion de minorité reste quand même connotée. Pour la littérature québécoise, encore là, la question se pose, parce que nous sommes évidemment la majorité des parlants français en Amérique du Nord. Donc la minorité par rapport à quoi? Ça se pose toujours un centre, et on ne sort pas avec cette notion-là, encore une fois, de la dialectique du centre et de la périphérie.
Je suis revenue au pays de la neige blanche, de la neige rouge, de la neige blanche, de la neige sale.
Ce Si l'on parle de tourment de la langue ou de l'intranquillité, du sentiment des Québécois vis-à-vis de leur langue, on touche peut-être au fond l'Isgovin au plus proche et au plus profond de l'âme de ce pays.
Oui, je crois que il y a un tourment, il y a eu, c'est ça, une conscience malheureuse de la langue, c'est-à-dire que pendant des années, les Québécois et les écrivains aussi ont été, se sentaient comme mal, en tout cas, sentaient un malaise, un inconfort de la langue, une langue que Miron appelle une langue aliénée, enfin, ils se sentaient dans une attitude défensive toujours par rapport à la langue, par rapport aussi à leur langue d'écrivain. Mais je crois que depuis quelques années, surtout depuis les années 80, on pourrait dire que le balancier a été modifié et je crois qu'on est passé vraiment à autre chose qui est le passage du tourment à l'imaginaire de la langue, l'imaginaire des langues. On a vu tout le parti qu'on pouvait tirer de cette situation un peu paradoxale.
L'idéal du français de Belgique cultivé, c'est, je crois, de ne pas être identifié comme un étranger en France, ou alors d'être identifié comme un étranger à la région où il circule. C'est une expérience que nous pouvons tous faire. Nous ne sommes pas systématiquement identifiés comme Belges, puisque pour le français hexagonal, pardonnez-moi ces précisions, le Belge, c'est celui qui parle comme M. Beulemans, n'est-ce pas, ou comme certains de nos hommes politiques, premiers ministres, qui sont en général flamands. Donc c'est cela l'idéal, et un petit nombre alors revendique leur particularité, un peu bannière au poing, mais au fond la langue, à quoi sert-elle? Elle sert à communiquer. Alors je vous dirais que mon attitude personnelle, c'est je dis 70 et je dis 90 en Belgique, parce que je me singulariserai inutilement en disant 70, mais je dis 70 et 90 en France, et je dis 80 en Suisse romande. Donc vous voyez, la langue, c'est d'abord un outil de communication.
Mais si nous avons tendance ici en France à imaginer, peut-être de façon fautive, qu'il y a débat linguistique en Belgique, c'est aussi parce qu'assez régulièrement, nous entendons parler de conflits linguistiques, alors cette fois-ci entre la communauté flamande et oui, la communauté francophone, notamment à l'intérieur de la région bilingue de Bruxelles. Ce qui nous conduit à penser que le débat linguistique serait une sorte de ferment comme ça, intellectuel, très fort.
Oui, c'est vrai que c'est l'image, et une image qui n'est pas fausse, qui est perçue en France, celle d'un débat linguistique. Mais au fond, ce débat linguistique est véritablement un débat politique.
Voilà.
Quand la Belgique s'est créée de façon un peu artificielle, la langue française apparaissait comme la langue devant naturellement s'imposer en Belgique. Parce qu'en face d'elle, il n'y avait pas de langue, enfin dans la perception de l'époque, il y avait des patois. Et le mouvement flamand est né dès 1840, a été un mouvement de reconquête, que l'on peut comprendre, de reconquête du flamand. Voilà l'origine de ces conflits linguistiques, avec des étapes marquantes, comme par exemple, et je n'attache ici aucun jugement, comme par exemple la flamandisation de l'université de Gand, qui est intervenue dans les années 30, et alors plus proche de nous, et qui a eu évidemment beaucoup d'écho, la flamandisation de l'université de Louvain, qui a chassé donc de son territoire les professeurs et les étudiants de langue française, en les obligeant à s'installer de l'autre côté de la frontière linguistique, en Brabant wallon, et de créer Louvain-la-Neuve. Et nous en arrivons à peu près, qu'est-ce qu'il y a encore à revendiquer du côté flamand? Il n'y a plus que Bruxelles. Mais là, il se heurte à la volonté, provisoirement en tout cas, à la volonté majoritaire des 85% de francophones de Bruxelles, y compris quand ils sont constitués par des flamands de souche lointaine. Voilà à quoi s'est réduit le débat linguistique. Et si, je crois, je vous donne ici une conviction que d'autres pourraient ne pas partager, si la Belgique existe encore de manière à peu près unitaire, bien qu'on parle de fédéralisme et bientôt de confédéralisme, c'est parce que les Flamands n'arrivent pas à croquer cette dernière noix. Autrement, il y a belle lurette, je crois, qu'ils auraient pris, car c'est dans la perspective, la dynamique du mouvement flamand, qu'ils auraient pris leur autonomie, laissant la Wallonie à son sort, et son sort pour certains d'entre nous serait lié à la France, mais il y a Bruxelles.
Nous allons aborder le thème d'écrivains qui ont choisi d'écrire en français, qui ont découvert une musique inespérée, selon Madame Baron Supervielle. Et vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Singularité francophone », qui est publié aux Presses universitaires de France. Et au lieu de résumer ce livre, qui est une étude extrêmement riche et sensible, d'écrivains qui sont passés d'une langue au français. Peut-être avez-vous été aiguillé par votre thèse, je crois, de littérature sur Jean Moréas, qui était un grec devenu francophone. Mais je propose qu'on puisse se concentrer, ça nous permettra de voir pas mal de points, sur les motivations initiales. Pourquoi passe-t-on au français ? Et d'abord, j'ai noté dans votre livre comme motivation le refus de la langue maternelle qui est perçue d'une certaine façon. Est-ce qu'on pourrait d'abord parler, Robert Joigny, de ce refus psychologique, politique, littéraire de la langue maternelle ?
Oui, volontiers. C'est effectivement un élément déterminant. Puisque vous parliez de Moréas, chez lui, le problème du bilinguisme entre le grec restitué et grec démotique, grec populaire, se posait d'une manière telle qu'il a estimé qu'il ne pouvait pas écrire, alors qu'il avait déjà publié pas mal de choses en grec, il ne pouvait pas envisager une carrière d'écrivain de langue grecque, et il a choisi le français. Et c'est un phénomène qui est assez fréquent. Cioran, par exemple, dit que au prix d'un effort, il emploie le terme d'ascèse, il a renoncé à la langue roumaine parce que cette langue lui paraissait trop lyrique, trop confuse. Venus Corrigata dit également qu'elle a renoncé aux sucreries de la langue arabe. Enfin, il y a un refus qui est un refus d'ordre esthétique, auquel s'ajoute souvent, évidemment, un refus d'ordre politique devant des situations qui sont des situations parfois insupportables pour les écrivains.
Justement, pour certains, c'est refuser le contexte politique dans lequel ils sont nés, et puis également exprimer une sorte d'engagement politique dans une langue réputée porteuse de liberté, dites-vous, Robert Joigny.
C'est ça. J'ai eu la surprise de découvrir, par exemple, le premier texte, celui où Panaitis Strati donne son adhésion au Parti communiste, une adhésion qui s'est poursuivie ensuite par une rupture extrêmement violente, mais son premier texte est un texte en français, et dans une lettre, il précise bien qu'il a tenu à donner, en 1917 ou 1918, à donner son adhésion au Parti communiste dans une langue qui donnerait justement toute sa dimension à cette adhésion. Et dans d'autres cas, le refus de la situation politique, linguistique, morale d'un pays consciemment, l'écrivain a adopté une langue porteuse de ce qu'on peut appeler, on ronronne un petit peu quand on dit le français, langue de la liberté, langue des droits de l'homme. Ça n'est pas toujours le cas, mais en fait, il y a ce désir.
Et parfois, ce désir est un désir lié à un projet culturel et littéraire. On rêve de participer à une culture prestigieuse en réalisant l'idéal littéraire d'une vie. Et vous citez, Robert Joigny, l'exemple, par exemple, d'André Makin.
C'est ça, André Makin, qui a été élevé dans une sorte d'admiration lointaine de la culture française, parce que sa grand-mère était russe, était française, pardon, normande, et avait épousé un cosaque lors de la visite de Nicolas II, je crois. Et cette grand-mère, qui n'est jamais revenue en France, n'a cessé de lui parler d'une France que Makin imaginait comme une France de réception, de bal à l'opéra, mais enfin une France mythique en quelque sorte, dont il a pris conscience de cette francité qui était la sienne. Il en a pris conscience auprès de ses petits camarades russes, parce que lui sentait qu'il avait une autre dimension, et cette dimension il a voulu la retrouver par la suite en devenant écrivain de langue française.
Mais alors là, Robert Chauny, quittons un instant les motivations initiales pour cette espèce de transmutation. Accéder à un tel modèle pour le fortifier, ça peut être un but, mais est-ce qu'on ne trouve pas aussi, est-ce qu'on ne devrait pas trouver chez ceux qui passent aux Français la volonté de déconstruire une langue?
Ah oui, oui, ça.
Plutôt que d'accéder à ce modèle,
ah, oui, oui.
À devenir une sorte de mage au sens gaulien.
Et il y a des écrivains qui sont devenus des écrivains d'origine étrangère, qui sont devenus de grands écrivains français parfaitement assimilés. Disons par exemple quelqu'un qui tout à fait estimable, comme Henri Troyat. Mais pour lui, même si la Russie demeure présente, il veut être écrivain français. Alors que pour beaucoup d'autres, il y a à la limite une volonté de déconstruction, d'où l'importance dans les mouvements dada, dans le surréalisme, de tous ces gens qui ont voulu violer la langue française. C'est d'ailleurs ce que disait mon vieil ami Chikaya Udamsi, africain, congolais, qui disait « Oh là, la France nous a assez souvent malmenés pour que nous ayons le droit de violer sa langue ». Et dans d'autres cas, effectivement, il y a un désir de dire, un double désir qui est presque contradictoire, reprocher à la langue française de ne pas pouvoir exprimer ce qu'on attendait d'elle, et en même temps, désir de la faire un peu sienne, c'est-à-dire d'aller à l'encontre des normes, des dogmes qui régissent la grammaire, la syntaxe, le vocabulaire français. Combien de fois j'entends dire « mais oui, mais tous ces gens-là écrivent dans un mauvais français ».
Mais il est impossible, j'imagine, Robert Chauny, de faire une sorte de répartition géographique en disant que les Africains sont ceux qui dynamitent la langue, alors que ceux venus d'Europe de l'Est seraient ceux qui la fortifient.
Oh non.
Ça, c'est impossible.
Ah, absolument, absolument. Disons que si j'ai été amené à parler de ces écrivains, c'est parce que très souvent, quand on parle de francophonie en France, on pense à une francophonie colonial et post-colonial. On pense à des pays qui ont la tradition du français, Belgique, Québec ou autre, mais on oublie trop souvent qu'il y a des gens qui ont choisi, pour des raisons qui leur sont propres, que j'ai essayé de trouver et je n'ai pas trouvé de réponse. Autant à chacun ses raisons.
On va reprendre sur ces motivations qui font passer d'une langue vers le français. Et il en est une qui me semble très, très prosaïque, mais c'est vu de loin et sans doute que ça compte. Vous dites que certains auteurs ont tiré l'enseignement des contraintes économiques. Ils ne pouvaient être publiés qu'en français.
Oui, effectivement, dans la mesure où on a choisi d'écrire en français, il y a quand même le support logistique de l'édition française et de l'édition québécoise. On oublie trop souvent, c'est très français, on oublie trop souvent que le premier grand, très grand livre d'Amadou Kourouma, Le Soleil des Indépendances, a été publié d'abord au Québec. Et puis ensuite, les éditions du Seuil l'ont repris. Donc, il y a des pays qui ont un support logistique, Suisse, Belgique, France, et suivant, et Québec bien sûr, et suivant les... l'insertion géographique, quelquefois, un écrivain va devenir un écrivain suisse de langue française. Agota Christophe, par exemple, publie en Suisse. Elle est hongroise d'origine, elle publie en Suisse. Et on ne doit pas pour autant la considérer ni comme un écrivain français, ni comme un écrivain suisse francophone. Je crois que elle appartient à cette catégorie des écrivains qui ont choisi d'écrire en français sans pour autant aliéner leur individualité et aliéner aussi leur droit de malmener la langue française.
Et alors, il est une autre motivation sur laquelle que vous soulignez dans votre livre Singularité francophone, Robert Joigny, c'est se plier aux injonctions du hasard comme à une sorte de cahier des charges. Et je trouve ça extraordinaire, cette façon. Tiens, je me trouve là.
Oui,
et bien,
oui.
Du coup, j'écrirai là où je me trouve. Oui, donc, oui. Ce sera en français.
Oui, c'est ce que m'a raconté, c'est une expérience vécue, que m'a raconté Sylvia Baron-Supervielle, qu'elle faisait allusion tout à l'heure. Sylvia Baron-Supervielle était de culture française, bien sûr. L'Argentine connaissait... Et puis, enfin, elle s'appelle pas Supervielle pour rien. L'Argentine connaissait bien la langue française, mais elle est arrivée à Paris pour des raisons apparemment indéterminées. Mais elle dit qu'elle aurait pu aussi bien devenir un écrivain anglais. Prenons le cas de Bianchotti, qui a quand même une expérience, une réussite française assez extraordinaire. Quand il a quitté l'Argentine, pour des raisons qui étaient à la fois politiques et personnelles, enfin, il voulait pouvoir exprimer son homosexualité, qu'il ne cache plus actuellement... dans un autre climat, et il est parti pour retrouver ses racines, qui étaient les racines italiennes, les racines piémontaises. Et puis, ça n'a pas marché, il ne s'est pas trouvé bien à Rome, où il a vécu quelque temps, et le hasard, il a un peu parcouru l'Europe, Madrid, Rome, Madrid, et il s'est retrouvé écrivain français, et je crois, enfin, il le dit assez, il le laisse entendre assez nettement, il a trouvé la possibilité de s'exprimer en français.
Vous citiez à l'instant Sylvia Baron-Supervielle. Chez elle, c'est aussi une façon de résoudre une crise d'identité. Ça permet d'évoquer le dernier refus initial. On parlait de refus politique, économique, littéraire, de la langue maternelle. Mais ça peut être une sorte de refus d'état de soi-même pour se retrouver autre et, en tant qu'écrivain, résoudre cette crise d'identité. Vous pourriez en parler à propos de Sylvia Baron-Supervielle, Robert Joigny ?
Oui, effectivement, je crois que il y a eu chez elle cette installation en France, installation pas du tout comme écrivain, elle avait l'ambition probablement d'être écrivain de langue espagnole, et puis un beau jour elle s'est mise à écrire en français et elle a vu que le français passait, elle dit expressément je me suis rendu compte que j'étais devenu autre, qu'il y avait quelque chose qui s'était ouvert en moi. Quoi, elle n'arrive pas à bien le définir, mais je crois que c'est une expérience humaine extrêmement significative, celle de Sylvia Baron-Supervielle.
On sent dans votre étude que vous avez quand même certains chouchous. Je pense à Sylvia Baron-Supervielle, justement, oui. À Andrei Makine.
Andrei Makine, oui, que je ne connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai trouvé son cas intéressant. Je voudrais ne pas oublier aussi Nathalie Sarraute, parce que quand même, son enfance me semble tout à fait déterminante, et je crois qu'il faut relire l'œuvre de Nathalie Sarraute en ayant toujours présente à l'esprit le paramètre russe, de même que j'ai essayé de lire l'œuvre de Jean Moréas en pensant aux bêtises que Monsieur Moréas faisait avant sa naissance, comme disait Hugo de ses poèmes d'enfance. Je crois que la dimension grecque demeure constamment présente et que lorsqu'il a retrouvé la Grèce, la boutade qu'il a lancée un jour est très significative. Il dit « Je suis un grec ». Oui, mais un grec du 4e siècle avant Jésus-Christ, montrant à la fois qu'il y avait un refus et une adhésion à une culture.
Et le point qui m'a le plus marqué en lisant votre livre, c'est le cas d'Israël.
Ah oui.
Et le mois dernier, début avril, nous avons consacré un tir ta langue au poète Gerassim Luka, qui aurait pu devenir un poète francophone d'Israël, mais il n'est pas resté, il est venu en France.
Oui, oui.
Et on voit qu'en Israël... Il y a une étude d'ailleurs écrite Français d'Israël que vous citez.
Oui, oui, oui.
Il y a un nombre incroyable, oui. Et pas seulement de juifs roumains,
oui.
Mais d'écrivains francophones.
D'écrivains francophones. Ça a été vraiment une surprise. Je travaille assez régulièrement avec l'université de Tel Aviv et je découvre à chaque instant des gens qui, quelquefois, ont laissé même des inédits, enfin, qui n'ont pas été publiés, mais qui, tout en ayant fait leur alia, leur retour en Israël, ont tenu à demeurer des écrivains francophones, quand ce n'est pas devenir un écrivain francophone. Je pense à ce poète que j'ai découvert trop tard, Bluma Finkelstein, qui est roumaine, juive roumaine, qui est venue en France, en d'Israël, mais qui a tenu à écrire en français, comme beaucoup d'autres Israéliens, parce que ça leur permet de prendre quelques distances par rapport au sionisme, par rapport à l'État actuel, à la désillusion qu'ils trouvent parfois dans l'État actuel.
Et puis parfois, échapper au côté paralysant de cette langue sacrée par excellence, qui est l'hébreu.
C'est ça. Elle dit par exemple, quand je dis, elle est très mystique, très imprégnée de judaïsme, mais quand je dis Dieu, je ne dis pas la même chose que quand je dis Yahvé.
Eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup Robert Joigny. Je rappelle cette étude qui lance énormément de pistes de recherche, mais qui n'est pas superficielle, loin de là. Vous citez notamment de nombreux passages de ces écrivains auxquels vous faites allusion. Singularité francophone, publié par vous Robert Joigny aux Presses universitaires de France.
C'était Tire ta langue, une émission d'Antoine Perrault, centrée aujourd'hui sur le documentaire de Catherine Poinbert, Les tourments de la langue française. Avec Lise Gauvin, essayiste et professeure de littérature à l'Université de Montréal, auteur de L'engagement, publié aux éditions du Boréal, et Marc Wilmet, grammairien, co-auteur de l'ouvrage Le français en Belgique, publié chez Duculot, et auteur d'une grammaire critique du français, coédité chez Duculot et Hachette. Mixage Jean-Michel Bernot et Pascal Revel. Réalisation Françoise Camard.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 15 mai 2001.